Nous annonçons une initiative commune aux paysans travailleurs et aux paysans du Larzac. Au cours de l'année, des familles de paysans travailleurs s'installeront sur des fermes libres du Larzac. Notre garantie, c'est l'engagement de maintenir ces paysans sur ce sol, sur cet outil de travail. S'appuyant sur ce que nous venons de faire ici, nous généraliserons ces combats dans tout le pays.
Partout en France, le 17 avril 2012, la Confédération paysanne appelle à une mobilisation pour lutter contre l'artificialisation des terres. De la lutte emblématique du plateau du Larzac des années 70 à la région PACA de nos jours, il n'est pas facile d'exercer son métier quand on est un agriculteur respectueux de la terre et des consommateurs. Lutte, le terme n'est pas trop fort contre le monopole de la grande distribution et la transformation des terres cultivables, soit en terrain militaire dans le Larzac, soit en terrain à construire pour de l'habitat et zone commerciale en région PACA.
Aujourd'hui, la parole est à l'offensive pour défendre le Larzac. Les travailleurs passent à l'attaque.
En 1971, le gouvernement français décide l'extension du camp militaire du Larzac au détriment des terres agricoles environnantes et des agriculteurs locaux menacés alors d'expulsion.
Il y avait depuis longtemps un petit camp militaire, je donne des échelles, hein, 3000 hectares.
Bernard Genet.
Il voulait en ajouter 15 000 de plus, donc le multiplier par 5.
Qui a assisté au rassemblement en 73.
Ce qui bouffait la quasi-totalité des terres agricoles de ce coin-là. Les besoins militaires sont prioritaires, mais on est encore avec une armée très puissante qui est chez elle partout et qui dit si, moi j'ai besoin de ça, les paysans ça compte pas. Et donc des paysans comme ceux du Larzac, comme ça peut être vrai aussi des gens qui font des légumes dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est des petits paysans. Et donc ils ne comptent pas dans le dispositif. Hein, ce n'est pas eux qui font la pluie et le beau temps dans les milieux agricoles. Et là, on considérait que l'armée avait besoin de ça, mais qu'ils allaient partir et puis on n'en avait rien à faire. Ils sont exploitants donc, autour de ce petit camp militaire, mais ils vont pratiquement être appelés à tous s'en aller si le camp est étendu dans la taille extrême qu'on lui donne, qui va couvrir presque toutes les terres agricoles du plateau du Larzac. Et donc ils disent ben, on ne veut pas partir. Mais des gens qui sont là depuis avec leur famille, depuis des décennies ou des siècles, qui héritent de la ferme du père ou du grand-père, etc., qui sont les paysans du cru, on dirait les purs sucres. Tu vois ouais. Et puis il est arrivé dans les années 60 des jeunes paysans qui cherchaient des terres, alors qui cherchaient des terres qui sont, alors les terres de l'Arzac ne sont pas les meilleures terres de France, parce que les meilleures terres de France sont appropriées par des grands capitalistes agricoles. Je parlais de la Beauce, de la Brie, de la Bourgogne et tout, bon, ça, il n'y a plus de place. Donc, un petit paysan qui veut s'installer, il va dans des endroits moins recherchés, où le terrain est moins cher. Et les paysans se mettent à parler de leur situation, ils sont relayés par des groupes, alors, de toutes sortes, les écolos nouveaux. Les non-violents qui disent, mais après tout, oui, c'est vrai, respectons la terre, parce qu'on a tous besoin de la terre, parce qu'on a tous besoin de manger.
Les maoïstes aussi.
Les maoïstes aussi. Parce que pour les maoïstes, alors eux, ils viennent avec l'histoire chinoise derrière eux, c'est-à-dire que la révolution chinoise, elle a été faite d'abord par des paysans. Un pays qui veut être maître de son destin, un pays doit pouvoir faire manger ses habitants. C'est la première règle maoïste. Donc les maoïstes arrivent. Et la grande intelligence politique des paysans, c'est de dire, si vous êtes d'accord avec ce qu'on fait nous, c'est-à-dire dire non au camp militaire, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut nous aider, que vous soyez maoïste, non-violent, curé de gauche, peu importe, tout le monde a sa place. Et c'est le fait qui laisse à tout le monde la possibilité de s'exprimer, de venir sur place, les aider, parler de leur lutte, qui fait que ça va prendre une énorme ampleur. La résistance commence en 71 et en 73, ils se disent, au moment où ils voient venir les premières mesures d'achat de terres par l'armée, etc., à l'amiable, ils disent, on va appeler à une grande manifestation de soutien. Mais ils n'avaient jamais fait ça, tu vois. Ils appellent à une manifestation de soutien, donc l'été 73, il vient 100 000 personnes.
Nous annonçons une initiative commune aux paysans travailleurs et aux paysans du Larzac. Notre garantie, c'est l'engagement de maintenir ces paysans sur ce sol.
Il y a un leader paysan qui s'appelle Bernard Lambert, qui est le leader d'un mouvement qu'on appelle à l'époque les paysans travailleurs. Et il sera, si tu veux, un peu le fondateur en idée de ce qui est la Confédération paysanne aujourd'hui. Il apporte une deuxième chose, c'est la relation entre ouvriers et paysans. Les ouvriers, les paysans, les petits paysans, ils ont des intérêts communs. Et il se trouve qu'au moment où il y a la lutte du Larzac, il y a des ouvriers qui sont en train de mener une lutte qui est elle aussi extraordinaire, c'est les ouvriers de LIP. Donc LIP, ils fabriquent des montres à Besançon. Ben, ils sont déjà confrontés à une tentative de délocalisation, tu vois, on n'est qu'en 73, et il y aura toujours un courant de sympathie dans le mouvement syndical ouvrier pour les paysans du Larzac. Mmh. Et ce qui se passera très concrètement, c'est que quand il y aura des grèves ouvrières dans les petites villes autour du Larzac, les paysans apporteront à manger aux grévistes, en disant ben, « vous nous soutenez, mais nous aussi ». Donc là, vous êtes en grève avec occupation des locaux, ben on vous apporte des œufs, on vous apporte des poulets, etc. Comme ça, vous tenez le coup et vous allez gagner.
Les paysans s'organisent pour s'opposer à la disparition des terres agricoles. Cela va durer jusqu'en 1981, année des élections présidentielles, où la situation risque de changer si la gauche prend le pouvoir.
Les paysans constituent un groupement foncier agricole, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une terre à vendre, ils se portent candidats. Alors comme ils n'ont pas l'argent, parce que c'est des petits paysans, ils font financer par les militants de toute la France ou même d'extérieur des achats. C'est-à-dire tu achetais des parts du groupement foncier agricole et tu venais propriétaire d'un pouce de terrain sur le Larzac. Et donc chaque fois que l'armée convoitait une propriété, eux ils arrivaient, ils disaient « on le prend nous ». Et donc ils vont réussir non pas à occuper tout le terrain que l'armée voulait acheter, mais à occuper un certain nombre de points qui verrouillent, si tu veux, l'extension du camp. À partir du moment où Mitterrand dit « moi, je promets que j'abandonnerai le projet d'extension du camp si je suis élu », le camp d'en face, le Giscard, se dit « si je passe en force maintenant que je fous les paysans dehors, je perds des voix ». Mitterrand est élu le 10 mai, je crois que le décret d'annulation est du 7 juin, donc ça a été fait 3 semaines après, dans des délais records.
Après 10 ans de combat, les terres du plateau du Larzac restent dans les mains du monde paysan qui va s'organiser et donner naissance à la Confédération paysanne.
La danse qui vient l'Orient entièrement dédicacée, car collègue réfléchit, qui déclare les guerres, qui cultive la terre, qui fait son profit et qui nous nourrit.
Les motifs d'engagement de la Confédération pour la défense des agriculteurs et des terres agricoles ne cessent pas depuis. Les études de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, témoignent de la réalité de la disparition de terres agricoles sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans les départements des Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau, 7e commune française de par son étendue, avec sa zone périurbaine, la plaine de la Crau, est un objectif immobilier pour la construction et l'extension de zones habitables et commerciales, au détriment des terres agricoles.
Alors ici, on est à l'INSEE à Marseille. On est dans les bureaux de madame
Roux, directrice régionale adjointe de l'INSEE en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Alors l'INSEE fait des études statistiques dans différents domaines.
Tout à fait. L'INSEE produit d'abord des données, fait aussi ensuite, à partir de toutes ces données, des études et des analyses pour voir comment les phénomènes sociétaux évoluent. On étudie tout sujet qui peut intéresser notamment les acteurs publics en région qui, eux, ont des décisions à prendre sur le terrain. Et donc, on essaye de les éclairer.
Alors ici, on a une analyse datant d'avril 2011 sur les terres agricoles face à la pression de l'urbanisation.
Alors là, c'est une étude qu'on a réalisée avec la DRAF, donc la Direction Régionale de l'Agriculture. Après, on a utilisé le recensement de la population. Et puis le recensement agricole aussi. C'est un recensement qui est fait par le ministère de l'Agriculture auprès des agriculteurs et qui recense donc toutes les propriétés agricoles, leur taille, l'usage des sols, le type de culture. C'est un recensement pour l'agriculture qui est fait régulièrement et où on s'est intéressé effectivement aux communes de la région qui étaient des communes soit périurbaines, soit rurales, c'est-à-dire des communes où la densité de population est encore faible et où il y a encore beaucoup d'espaces naturels et agricoles qui sont susceptibles de disparaître avec la croissance forte de la population régionale. Et à partir de cette analyse, on a pu identifier 3 groupes de communes qu'on a qualifiés de groupes à enjeux. Les enjeux sont différents. Le premier groupe, ce sont des communes qui sont en bordure des communes urbaines sur l'arrière littoral. Aussi bien dans le Var que dans les Alpes-Maritimes. Et ce sont des communes où la population augmente le plus rapidement. Le nombre de logements augmente également très fortement. Et où, lorsqu'une terre agricole est vendue, elle perd très souvent, à savoir dans la moitié des cas, sa vocation agricole. Ce sont des endroits où les prix des terrains vendus sont les plus chers et où donc, effectivement, on voit bien que la pression est très forte. Ensuite, on a identifié un deuxième groupe qui, lui, est plus centré autour de l'agglomération avignonnaise. Donc là, la population croît moins vite que dans le premier groupe et pourtant, le nombre de logements, lui, croît très vite. Et il y a beaucoup de locaux commerciaux aussi. On a plus de constructions que dans le premier groupe. Alors, même que la population augmente moins, c'est parce qu'effectivement, il y a des constructions de résidences secondaires. C'est parce qu'il y a plus de phénomènes de décohabitation. Les gens sont moins nombreux dans leur logement. La taille des ménages, donc le nombre de personnes dans chaque logement, diminue peut-être plus vite qu'ailleurs. Du coup, on construit beaucoup dans cette zone. Et donc, on l'a qualifiée d'une zone qui est sous pression de la construction dans un espace agricole, parce que dans cet espace-là, on a encore la moitié de l'espace qui est occupé par l'agriculture. Et donc, on retrouve Saint-Martin-de-Crau dans ce groupe-là.
Du Mas de Gouin jusqu'à Cafan, du Bas-Planton à Boussard, une partie de la population de Saint-Martin-de-Crau et les communes limitrophes demandent, premièrement, que le projet de plan local d'urbanisme qui va être voté le 5 juillet, pendant que nous serons en congé, comme les mauvaises lois à l'Assemblée nationale, on demande à ce que ce projet de plan local d'urbanisme soit abandonné et qu'il soit réécrit par un cabinet qui soit indépendant du Conseil général des Bouches-du-Rhône.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau est un objectif immobilier pour la construction et l'extension de zones habitables et commerciales au détriment des terres agricoles. Une action citoyenne pilotée par la Confédération paysanne tente d'enrayer l'objectif en attendant que ne soit votée une loi empêchant l'artificialisation des terres agricoles.
Du RER, chanson pour toi qui en a marre de la pollution et des bouchons, des sirènes de pompiers et de la queue au supermarché, des PV et du béton, de la grisaille et même du Panthéon. Petite chanson citadine, pour toi qui vis où tout se meurt, au beau milieu des champs de blé, il n'y a pas de ciné.
Là, ici, on est à Saint-Parpaing-de-Crouse, nouvellement effectivement défini compte tenu du plan d'urbanisation projeté par la mairie dans le cadre d'un plan local d'urbanisation, ce qu'on appelle maintenant en l'occurrence un PLU, pour la disparition, du moins ça engage la disparition de 65 hectares. C'est toujours pareil, hein, à l'initial, ce sont toujours des terres agricoles qui effectivement sont retirées de la production pour servir effectivement le développement de l'habitat ou de l'industrie. Donc Philippe Chancigaud, porte-parole de la Confédération Paysanne 13.
D'accord.
Donc la Confédération Paysanne y est particulièrement sensible à cette disparition. Et nous avions déjà attaqué l'année dernière un projet dont je vous parlais sur Tarascon de 35 hectares. Le préfet d'ailleurs a remis en cause effectivement ce projet de la communauté d'agglo et ça a été annulé. La décision effectivement prise par le maire de Tarascon et par la communauté d'agglomération a été annulée. Ces 35 hectares retomberont, et nous le souhaitons, dans la escarcelle de la production agricole.
D'accord, là on parle de 65 hectares, c'est autour de Saint-Martin-de-Crau, mais en région PACA, ça représente quelle surface ?
Aujourd'hui,
vous avez des chiffres ?
On va être beaucoup plus rapide. Les deux tiers des Bouches-du-Rhône sont dédiés à l'urbanisation. Les deux tiers. Donc le seul espace important lié à l'agriculture, c'est très exactement le pays d'Arles, dont fait partie Saint-Martin-de-Crau.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, chaque année, nous avons donc 1700 hectares qui disparaissent. Ça fait 50 stades de foot par semaine. À l'échelle nationale, nous avons 82 000 hectares qui disparaissent, l'équivalent d'un département français entier tous les 8 ans. Et enfin, à l'échelle européenne, nous avons 400 000 hectares qui disparaissent chaque année, et ça fait l'équivalent de la région PACA tous les 8 ans. Au niveau mondial, on n'a pas de données, parce qu'effectivement, il n'y a pas de mesures aussi précises, mais on sait que de partout, les terres sont en train de reculer, de disparaître.
Mais toi, tu avais des chiffres sur les transformations des terres agricoles en terres urbanisables.
Moi, c'est Jean-Christophe Robert de l'association Filière Paysanne pour la souveraineté alimentaire locale. Donc en fait, les chiffres que je présentais tout à l'heure, tu as déjà les chiffres locaux. sur le département, on va dire, sur le département des Bouches-du-Rhône, tu as chaque année 1700 hectares qui disparaissent, 1700 hectares de terres agricoles. Donc ça veut dire que ça, c'est uniquement les terres qui sont comptabilisées par les organismes agricoles en tant que surface agricole utile, mais il y a des terres qui sont cultivables, qui ont été déclassées, qui ne sont plus donc déclarées comme agricoles et qui disparaissent aussi, qui sont urbanisées. Donc 1700 hectares par an, c'est simplement les terres classées comme agricoles, sachant que tu en as plein d'autres qui pourraient être cultivables aussi, enfin qui le sont peut-être même encore, et qui disparaissent aussi. Donc il faut largement majorer ces 1700 hectares.
Et alors à qu'est-ce qu'elles deviennent ces terres-là ?
C'est essentiellement pour de la construction de zones commerciales, artisanales, de zones d'habitation, d'équipements collectifs, et d'infrastructures telles que des routes, des ronds-points et compagnie.
D'accord. Et alors si chaque année il y a autant de surfaces qui disparaissent, au bout d'un moment il n'y aura plus de terres agricoles en région.
Donc là il y a un calcul qui a été fait sur les Bouches-du-Rhône. Il y a à peu près, selon les estimations, entre 10 et 50 ans avant la disparition totale de l'agriculture dans notre département. Sachant que c'est beaucoup plus, on va dire, aigu sur le littoral. Plus tu t'approches de la mer, plus la pression immobilière est forte. Donc c'est pas totalement homogène sur l'ensemble du territoire, mais du territoire départemental. Mais voilà, la tendance est entre 10 et 50 ans à peu près avant que l'agriculture ne disparaisse sur nos départements. Si on prend des départements encore plus sujets à la pression immobilière comme les Alpes-Maritimes par exemple, là il y en a pour moins d'une dizaine d'années.
Alors bonjour, on est ici à Saint-Martin-de-Croix
ou de l'entrepôt.
De l'entrepôt.
Alors moi je m'appelle Peter Gerber, je suis à la Confédération Paysanne 13.
On est où ici exactement ?
Chez Denis Develle, Master Rayon. C'est un agriculteur qui est, si on regarde bien, entouré déjà des zones qui sont construites en partie en lotissement. Il y a le nouveau Super U qui est là et il y a à peu près 90 000 mètres carrés planifiés de hangars.
Ça, c'est tous les projets qui sont en cours de réalisation ou c'est des idées ?
Non, c'est des projets déjà malheureusement en grande partie déjà décidés et tout. Là, tu vois des grands entrepôts géants qui existent déjà de la 13 hectares. Il y aura encore 5 hectares de plus prévus. Et après, il y a une extension assez énorme avec justement, que j'ai parlé, Carnivore, sous le nom de Saprimex, Poix-de-Leusse, là où il y a les éoliennes, 55 hectares, tous des hangars logistiques que des entrepôts. C'est pour ça qu'on a dit c'est Saint-Martin de l'entrepôt. C'est en partie des terrains aussi achetés par Carnivore, qui est, bon, c'est pas les seuls, mais c'est vrai que Carnivore, c'est d'une part une grosse boîte qui achète et qui revend la viande, qui a toute une chaîne de magasins, mais ils ont aussi une branche foncière, une branche immobilière. Et ici, non seulement ça c'est déjà fait, ils ont construit un grand hangar Carnivore, on peut aller le voir, mais là-bas, vers les éoliennes, alors là, c'est effectivement des surfaces impressionnantes qui vont être construites en entrepôt. Et Carnivore, là, c'est, ils ne s'appellent pas Carnivore, mais c'est les mêmes gens qui ont acheté ces terres-là pour les revendre dans un intérêt, vu que la terre, elle est plus rentable pour vendre et revendre que pour travailler.
Et donc cette société-là, Saprimex, ils ont un salarié ?
Un salarié ?
Ils ont plusieurs, dont un salarié,
d'accord.
qui est un ancien salarié de la mairie. Donc Saprimex l'a embauché, et le mec il connaît très bien Saint-Martin, il va voir les terrains qui sont en vente, etc. Les vieux masses abandonnées, les héritages qui finissent, etc. Et il va voir le groupe Carnivore, c'est du filial, et ils sont toujours sur les bons coups, parce que le mec connaît Saint-Martin comme sa poche.
Qu'est-ce que c'est ça ?
Une chenille.
Non, pas une chenille. Allez, qu'est-ce que ça pourrait être si c'est pas une chenille ?
Un ver de terre. Alors lui, c'est lui qui travaille la terre et qui mélange tout pour que ce soit bon pour les plantes. Donc lui, c'est notre petit ami, il ne faut pas l'abîmer. Et par contre, si tu l'emmènes dans ton pot avec ta plante, il va faire du bon travail. Donc on va tout de suite le mettre là pour être sûr qu'on lui fait pas mal avec la pelle quand on va tout mélanger. Et pour être sûr que tu en as un dans ton pot, comme ça il va bien, bien travailler la terre sous ta plante pour que ce soit bon. Tu as mélangé ta bonne terre, on est bien d'accord, là tu as un bon mélange. Tu vas donc mettre un peu de terre autour. On va laisser un petit trou pour pouvoir planter tout ça. Et après tu vas tasser ta terre. ça marche super, mais il n'y a plus assez de terre pour faire les plantations. Alors il faut en fabriquer. Alors fais du mélange. D'accord. Un peu de là comme ça, un peu de là comme ça. Et tu refabriques un peu de mélange là-dedans. Et après, on aura ce qu'il faudra pour mettre nos plantes. Alors, un petit trou. Voilà. Comme ça. Et tu resserres ta terre dessus. Voilà. Et là, tu en mets tout autour. Voilà. Encore. Allez, on y va. On mélange. Ben là, il y a un peu de terreau. Et là, il y a une terre de jardin, mais tu vois, très claire, très argileuse, très collante. Qui manque de matière organique, en gros. Le noir, souvent, c'est la matière organique. Donc ça manque de végétaux. Et ça, c'est le terreau, ça manque de limon, d'argile, de liant, pour bien tenir sur les racines. Donc on mélange plusieurs terres pour avoir une terre idéale.
Dans la terre, j'ai vu ça.
Qui organise tout ça, qui prévoit ces transformations de terre.
Oui, alors en fait, si tu veux, il y a plusieurs dispositifs de politique d'aménagement de l'espace.
Jean-Christophe Robert, de la Confédération Paysanne.
Tu as à l'échelle interdépartementale, on va dire, les directives territoriales d'aménagement, qui fixent donc les grands schémas. Ensuite, au niveau donc des intercommunalités, on va dire, tu as les SCOT, c'est-à-dire les schémas de cohérence territoriale, qui vont à plusieurs communes donc fixer un petit peu la règle du jeu que se fixent ces intercommunes pour pouvoir aménager en cohérence entre elles l'espace. Et ensuite, au niveau de chaque commune, tu as les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui vont vraiment fixer la façon dont va être occupé le sol au sein de la commune. Normalement, ces trois dispositifs doivent être compatibles les uns et les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une directive territoriale qui va fixer et dire impérativement comment doit se dérouler le SCOT et à l'intérieur du SCOT comment doivent se dérouler les PLU. Mais chaque étage doit prendre en considération ce qui a été calé. Il faut que ça soit compatible. Ils ne peuvent pas être en contradiction avec ça. Mais cela dit, ils ont une grande autonomie à chaque étage pour pouvoir organiser les choses.
Il y a des experts quand même. Je veux dire, il y a des architectes, il y a des gens compétents. Alors, est-ce que quand même ils se rendent pas compte du problème, la disparition des terres agricoles?
C'est vrai que toute la garde, l'arrière-garde, l'ancienne garde, on va dire, des élus qui sont plus des quinquas, sexa, septuagénaires, eux sont restés quand même plus sur une logique effectivement où l'espace est une variable d'ajustement dont on dispose de manière taillable et corvéable à merci. Et les jeunes générations, donc plutôt les trentenaires, les tétras, les quadras, qui maintenant dans ces instances-là, qui ont donc en tant que techniciens quand même un certain poids, sont beaucoup plus sensibles à la question du développement durable et de la disparition des terres agricoles.
Et ils arrivent à inverser la tendance?
Ils peuvent pas réellement inverser la tendance tant qu'il n'y a pas une pression citoyenne.
D'accord.
Voilà, et c'est vrai aussi des élus. Les élus, tant qu'il n'y a pas une pression citoyenne derrière, ils ont du mal à pouvoir effectivement faire passer un certain nombre de positions innovantes. Parce que la plupart des élus qui vont dans le sens de la préservation des terres agricoles sont quand même encore relativement isolés. C'est une tendance qui est en train de s'inverser petit à petit, mais ils sont encore relativement isolés. Et s'il n'y a pas une pression citoyenne derrière qui les appuie, il est très difficile dans les espaces de décision collective pour eux de se faire entendre et de mettre en avant la préservation du foncier.
Ce que cette lutte-là a changé dans ma tête,
extrait du film,
c'est la vision
Notre-Dame-des-Landes au cœur de la lutte.
C'est beaucoup plus la vision sur les politiques. Parce que voilà, je suis fils d'ouvrier agricole, tout petit agriculteur, relativement légaliste, j'aime pas trop l'agitation, les mouvements, etc. J'aime bien les choses en ordre. J'ai dans ma tête une position de gauche, naturellement, et plutôt chez des gens très raisonnables, genre PS, etc. quoi. Quand on voit, comme agriculteur, quand on voit les élus de la majorité socialiste du Conseil Général qui ont voté cette disparition de milliers d'hectares agricoles, là, ça te sape un peu les bases.
Nous sommes dans un monde qui devrait réagir de manière rationnelle, avec des élus qui ont en principe la charge de la réflexion du long terme et qui se refusent visiblement à regarder les éléments objectifs nouveaux que nous apportons. Comme s'ils avaient peur que finalement leur position soit affaiblie, comme s'ils ne voulaient plus entendre parler de cela et comme si maintenant le seul argument c'est trop tard, c'est fini, c'est en cours.
Là, Saint-Parpin-de-Crouz, c'est la troisième action qu'on mène. Donc, on a commencé il y a à peu près un an et demi de ça avec Tarascon, où on a réussi à bloquer l'urbanisation de 31 hectares. On a continué sur Gémenos, donc ça, c'était en avril dernier. Gémenos, c'était à l'automne. On a réussi à bloquer 19 hectares pour de l'habitat, donc de l'habitat extensif, hein, des maisons privatives, avec des beaux jardins autour, tout ça, qui bouffe beaucoup, beaucoup d'espace. Et là, c'est la troisième action qu'on mène sur Saint-Parpin-de-Crouz. Et on espère avoir également un gain de cause, comme ça a été le cas dans les deux combats précédents. Il y a cette mobilisation pour être visible, on va dire, devant la mairie d'aujourd'hui. Il y a également la lettre qu'on a envoyée au préfet, comme nous l'avions fait à Tarascon et à Gémenos. Effectivement, c'est par le biais du préfet qu'on a pu bloquer le projet sur ces deux communes. Et on espère que sur la commune de Saint-Martin, ça sera la même chose.
Alors, s'il est bloqué, qu'est-ce qui devient ce projet alors? Les terres agricoles restent préservées, c'est ça?
Oui. Si effectivement on arrive à bloquer ce PLU en l'état, ça veut dire que la mairie devra reproposer un autre PLU dans lequel il sera obligé de prendre en compte la demande de la préservation des terres fertiles.
C'est-à-dire l'installation de nouveaux agriculteurs, de jeunes agriculteurs?
Les personnes qui partent à la retraite, qui souhaitent vendre, qui bien souvent ont la possibilité de vendre en terre, à bâtir, donc beaucoup plus cher forcément du fait de l'appât du gain, ce qui est humain, hein, ça peut se comprendre aussi, vont préférer effectivement le vendre pour pouvoir arrondir leur retraite. Il y a un problème social dans l'artificialisation des terres agricoles, c'est dur à dire mais on arrive. La vente du foncier par les agriculteurs qui arrivent à la retraite en est une, parce qu'effectivement les agriculteurs ont de faibles retraites, parce qu'ils payent des cotisations qui sont relativement réduites à la mutualité sociale agricole, et parce que les revenus agricoles, du fait des prix extrêmement bas, du fait de la mondialisation, ne leur permettent pas effectivement d'avoir des cotisations plus importantes, d'avoir une retraite derrière. On se rattrape sur la vente de la terre. Donc ça veut dire qu'on est dans une politique de court terme, c'est la terre brûlée.
Alors, il n'y a pas une possibilité de gel des terres agricoles, c'est-à-dire qu'une terre agricole reste une terre agricole.
Depuis les années 60, il y a eu la création des SAFER, c'est-à-dire les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui, à la demande donc des jeunes agriculteurs de l'époque, permet de pouvoir faire préemption sur la vente des terres agricoles pour que ces terres agricoles restent dans une vocation agricole et ne soient pas vendues pour de l'urbanisation, pour de la construction immobilière et de la spéculation foncière.
Michel Apostolo, de la Confédération Paysanne, PACA. La vraie question, ça serait de geler les terres agricoles, qu'elles ne puissent plus être urbanisées ou artificialisées. Les études menées par le Conseil régional et la Direction régionale de l'agriculture ont montré qu'il y a aujourd'hui suffisamment de zones à urbaniser pour accueillir 1 million d'habitants dans les 15 ans, comme la prospective le laissait supposer. Donc il n'y a aucune nécessité pour le développement que certains veulent à urbaniser des terres agricoles. Au contraire, ces terres-là doivent rester nourricières et participer au maintien de l'autonomie alimentaire de la région. Aujourd'hui, il y a une loi de modernisation agricole qui a un volet foncier. Il était dit dans ce projet de loi de modernisation agricole qu'il y a entre 60 000 et 70 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent de l'agriculture par an. Ce qui était annoncé dans ce projet, c'était de diminuer de moitié. Cet objectif chiffré a été finalement abandonné. On a des difficultés à avoir des politiques foncières fortes.
Il y a des possibilités de pouvoir conserver grâce à la SAFER ce foncier agricole, mais il y a plein de pratiques de contournement.
En France, nous avons besoin de mettre en place un projet de loi nationale, et donc il faut absolument que grâce à ce projet de loi nationale, on puisse stopper l'hémorragie foncière qui va nous affamer dans les décennies qui arrivent. Et donc, parlez-en autour de vous, cette loi, elle a besoin d'être relayée par un maximum de citoyens, donc dites-le qu'effectivement, c'est une nécessité, et appuyez ce projet, on a besoin de vous, on a besoin de nous tous.
Il n'y a pas de loi qui, effectivement, encadre les PLU par rapport à la question de la préservation, on va dire, de la sanctuarisation des terres agricoles. Et ça, ça permet donc aux maires de faire ce qu'ils veulent au sein de leur commune. Et donc ce n'est que par une mobilisation citoyenne qu'actuellement on arrive localement à lutter contre des projets d'artificialisation massive. Mais si on arrive à vraiment faire adopter par le Parlement une loi sur la préservation des terres agricoles à l'échelle nationale, là effectivement on va pouvoir bloquer ce processus. On aura un outil législatif à notre disposition, et si jamais il y a un maire ou une équipe municipale, on va dire, qui sort du rang, là il sera très facile de pouvoir effectivement de suite le recadrer, éventuellement de l'assigner au tribunal administratif. sans avoir besoin de passer par tout un tas de stratégies procédurières, comme bien souvent on est obligé de le faire, de dire voilà, les phases de concertation n'ont pas été respectées pour telle et telle chose. Donc il n'y a pas besoin d'armada de juristes à partir du moment où on a une loi. Il n'y a pas besoin de mobiliser tous les médias et tous les réseaux militants. Moi j'ai très très bon espoir, mais effectivement.
C'est ici, la solution ça, quand même là, pour résoudre ce problème, pour préserver les terres, c'est quand même de légiférer.
C'est la seule même, solution durable qui soit, on va dire, à la taille de l'enjeu et de la problématique face à laquelle on est confronté. Ouais.
Je l'ai souvent répété, dans notre métier d'agriculteur dans les régions accidentées, il ne faut pas aimer son métier, il faut être passionné. Alors, et les animaux, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que les vaches, les moutons. Les...
Dessus,
la tienne, si, elle a bien, hein? Elle a bien fait la tienne.
Pas sûr.
Si.
Cette journée-là, c'est un but beaucoup plus large. Aujourd'hui, on voudrait mobiliser sur le problème de fond, parce que la dernière fois, la dernière grande action que nous avons faite en tant que collectif Terre Fertile, c'était à Tarascon, où ils voulaient commencer à grignoter, pas tout, mais 31 hectares, sur des centaines d'hectares, 31 hectares, pour démarrer une zone commerciale. Et là, on a gagné, mais on ne peut pas gagner à chaque combat, et en même temps, il faut aussi que les gens commencent à réfléchir sur la souveraineté alimentaire.
Et depuis le milieu des années 90, et on le date très facilement, c'est-à-dire depuis la crise de la vache folle, l'agriculture est redevenue une véritable question de société.
Jean-Noël Gonzalez.
Mais de société urbaine.
Agri-urbaniste.
On est passé à une volonté au sein des sociétés locales de consommer mieux. Le consommateur urbain, il a de plus en plus envie de savoir que sont ces produits qui sont dans son assiette. Et c'est pour ça que la question du local revient complètement. Le consommateur que je suis, que tu es, va commencer à regarder ce qu'il a autour de chez lui. Autour de chez lui, il reste de l'agriculture. Et c'est pour ça que cette agriculture urbaine, là, est remobilisée dans sa fonction productive première. Le consommateur est réellement en attente de consommation de produits locaux. Ce système de rapprochement entre le consommateur et le producteur, c'est le développement des marchés paysans. On se rappelle qu'il y a 15 ans, sur les marchés, à Marseille, on n'avait que des revendeurs, c'est-à-dire des gens qui allaient au carreau, qui allaient au marché d'intérêt national, acheter de la production, et leur métier, c'était de revendre sur les marchés locaux. Aujourd'hui, en France, se développe de façon très très forte le développement justement des marchés dits paysans, c'est-à-dire que les paysans, les agriculteurs locaux réinvestissent la vente. Pourquoi les agriculteurs se retournent vers la ville ? Un, parce qu'ils sentent bien qu'il y a un besoin des villes et que qui dit besoin dit peut-être façon de revaloriser leur activité, y compris sur le plan économique, parce que en passant de ce qu'on appelle des circuits longs, c'est-à-dire de circuits où il y a beaucoup d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, à des circuits courts, toutes les marges qu'ils peuvent faire sur leurs produits, c'est eux qui les encaissent. Les agriculteurs situés à proximité immédiate de la ville ont l'occasion de se retourner vers leurs consommateurs et de venir donc sur des circuits courts qui sont en plein boom, en plein développement.
Mais monsieur, regardez, une tranche un peu plus ou...
Sachant que ça diminue quand même. Ici, hein.
À Marseille, le MIN, marché d'intérêt national, regroupant des centaines d'entreprises, de producteurs et des tonnes de produits frais en provenance du monde entier, était peu favorable à l'installation d'un marché paysan en centre-ville.
En 1975, Gaston Defer a, comme dans pas mal de grandes villes, décidé d'implanter un marché d'intérêt national, un MIN, qui a été donc sur Marseille le MIN des Arnavaux, comme tu peux avoir donc Rungis sur Paris. Jusqu'en 1975, les producteurs de Marseille et de la périphérie de Marseille, puisqu'avant Marseille était une ville quand même très agricole, venaient sur le marché de gros du Cours Julien et de la Plaine. Et du coup, les producteurs qui étaient sur ces deux emplacements ont été transférés au carreau des producteurs du MIN, où on trouve donc uniquement des producteurs. Et à côté donc de ce carreau des producteurs, tu as tous les box des grossistes, avec principalement des produits d'importation qui arrivent par camion du Maroc, Espagne, Tunisie, Hollande. Tu as aussi des produits français qui viennent pas forcément uniquement que de la région. Donc sur le carreau des producteurs, eux ont quand même, ils sont confrontés à une concurrence directe, puisque tu as juste à 50 mètres des grossistes qui bossent sur des produits d'importation avec des différences de coûts qui sont conséquentes. Si tu vois par exemple le coût d'une heure de salaire en France qui est de 12 euros pour un salarié agricole, tu passes en Espagne, il est de 6 euros. Tu passes au Maroc, il est de 1 à 2 euros. Extrêmement difficile pour les producteurs locaux de pouvoir faire face à cette concurrence physique directe que exercent à côté d'eux les grossistes. Cela dit, c'est vrai que le fait de mettre en place un MIN permet de pouvoir accéder à des zones, tu vois, accessibilité camion, qui font que de suite, tu dimensionnes l'espace de vente à des flux à grande échelle. C'est plus du tout les mêmes réalités logistiques que le fait de venir en centre-ville. Donc en centre-ville, effectivement, c'était plutôt des petits producteurs ou des petits grossistes. Et là, c'est de suite de la dimension bien supérieure qui forcément induit des différences de taille, des différences d'économie d'échelle et donc des différences de capacité à écraser commercialement les petits. Tu as la rencontre sur le même marché au même moment, les mêmes produits, les mêmes variétés ou en tout cas les mêmes espèces qui se retrouvent sur le même marché.
Pas au même prix.
Pas au même prix, mais c'est pas non plus la même qualité. Alors, par exemple, tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, et ne parlons pas du Maroc ou de la Tunisie, tu as des produits de traitement, produits phytosanitaires, donc notamment contre les insectes, les insecticides, que tu ne peux pas utiliser en France, puisque depuis les lois Voynet, il y a eu l'interdiction d'un certain nombre de matières actives. Donc du coup, tu vas retrouver des produits venant d'Espagne, du Maroc, d'Italie, qui n'ont pas du tout la même qualité en termes de toxicité que des produits français.
Aux hormones, ils ont qu'à aller voir en Espagne.
C'est un producteur dans la Drôme qui fait l'élevage de la peigne en cage. Une cage, hein, je vous mens pas, hein. Comme ça, vous avez trois la peigne dedans.
Il est plus cher. Les porgers, ils mangent
ça. Si vous oubliez de leur donner à manger le matin bonne heure, il y en a un de mort, il faut vous faire trop.
Moi, j'ai le grand-père de mon genre, j'ai la peine, c'est individuel.
Voilà.
Mais vous voir si la peine, comme ils sont bons, ça nous fait même la peine de les manger. Ils sont tellement beaux.
Comme on dit, il en faut pour tout le monde, c'est de la peine d'industrie. C'est nourri au totalement, au bout de tant de jours, on les balance dedans.
Alors, c'est pas pour rien qu'on a tous ces maladies.
On les balance à Auchan, comme on dit, dans les grandes surfaces, c'est de la peine pas chère.
C'est vrai, après, on est malade.
Les poulets.
On est malade, monsieur.
Les poulets, pour que les œufs. Les œufs industriels qu'on appelle, pour que ce soit rentable, les poules, on leur met la lumière. Vous savez qu'une poule, quand il y a la lumière, on ne dort pas.
Oui.
Ou très peu.
Le cher, et puis elle pose sur les poules mortes.
Elle pose sur les poules et ça fond. Et ces poules, une fois que le sont vieilles, on les met en rayon et on les met en poulet. Oui. Alors, vous savez que vous avez des poulets à 3 euros, 2 euros le poulet. Qu'ailleurs, ça vaut 20 euros, 15 euros.
C'est pour ça que...
C'est des poulets.
Ouais, va mieux. L'année prochaine, la semaine prochaine,
1,5 kg. Là.
Voilà.
Alors bonjour, je suis avec un producteur de la région.
Oui, du Bouches-du-Rhône. Hein.
Armand Durigon, maraîcher et cofondateur du marché paysan du Cours Julien.
De la Farles-les-Oliviers. Alors nous, on est un peu atypique, hein. C'est-à-dire qu'on est très diversifié et on est orienté vers la vente donc, au détail, donc sur des marchés de producteurs. Le marché du Cours Julien donc à Marseille, hein, qu'on a créé en 2001, qui est un marché qui est une référence pour Marseille, hein, un marché de frais. ça a été très pénible de rentrer sur Marseille, parce qu'en fait, on se heurte à une fédération de revendeurs de fruits et légumes qui est très, très balèze, hein, qui fait même reculer la mairie, qui veulent absolument la totalité du territoire destiné à la vente de fruits et légumes. Donc quand on s'est pointé, on a plus ou moins eu un petit peu de bol. C'est-à-dire qu'il y avait le marché du cours Julien qui était en sommeil, puisque c'était quand même le lieu historique des marchés avec la plaine. Mais le marché n'a jamais été annulé, donc il y avait une possibilité. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré, dans des conférences d'explication des OGM à l'époque, ce que c'était, un responsable de l'association des commerçants du cours Julien. Il y avait une volonté déjà de l'association, hein, des commerçants, de créer un marché paysan, mais bon, ils n'arrivaient pas trop à articuler, ils avaient du mal à trouver les paysans, etc. Moi, j'ai ramené ça dans mon giron de la Confédération Paysanne, on en a parlé, et on avait déjà au préalable fait des manifestations sur le Vieux-Port, où on trouvait beaucoup de crédits et les gens disaient « mais nous, voilà, c'est ce qu'on attend à Marseille, on veut du frais, et ça, on n'a pas droit, etc. » Et donc, quand on a créé ce marché, on a eu la montée au créneau des revendeurs qui ont tenté auprès de la mairie de nous virer. Et la mairie, au bout d'un mois, a dit « écoutez, moi, ça me pose trop de problèmes. » Donc, c'était Mme Bassa, elle a dit « moi, ça me pose trop de problèmes. » On a décidé d'y aller quand même, on était une douzaine à l'époque. Hein. On a fait une pétition, on avait ramassé 600-700 signatures, et c'est comme ça qu'on s'est posé en centre-ville. Ensuite, on a eu beaucoup de demandes sur Marseille pour créer des marchés paysans. Ça n'aboutit jamais. Donc il y a quand même presque 1 million, disons, d'habitants, si on considère qu'il y a la banlieue et qu'il y a des gens qui viennent d'Aubagne aussi et qui viennent aussi au marché paysan. Les Marseillais, c'est par excellence certainement la population dans le Grand Sud-Est qui est la plus consommatrice de fruits et légumes. C'est quand même, ils baignent dans cette culture avec l'ancienne ceinture verte qu'ils avaient. Nous, depuis des années, on a développé des gammes de produits. Tout est consommable, mais ils veulent de tout. Je veux dire, demain, je peux arriver avec la bread mafane, je peux arriver avec de l'aubergine, du gnam qu'on appelle africaine, etc. Et ils vont tout consommer.
Ici, vous avez un site
d'accord
à consulter. Vous avez les adresses d'AMAP. Que... Après, comme les AMAP, ce sont les associations de consommateurs.
Je connais parce qu'on vient de Lorraine et on en faisait partie.
D'accord. C'est sur Toulon. Et c'est extraordinaire parce que je vois tout, sauf Toulon. Mais il y a aussi le fait que... Prenez ça, vous pouvez prendre
merci.
Ça. Que s'il y a un groupe de consommateurs suffisant... Isabelle Mathieu, mère de famille consommatrice à l'AMAP de Bonneveine. Une AMAP, c'est un groupe de consommateurs qui va établir un lien privilégié avec un agriculteur dans l'idée de maintenir l'exploitation. Comment il va aider l'agriculteur à maintenir l'exploitation? C'est en lui achetant à l'avance tout ou partie de sa production. En échange, les consommateurs ont une livraison régulière des produits normalement bio, sans engrais ni pesticides de synthèse, et aussi des produits donc locaux et de saison. On entre dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On change de fonctionnement économique, on sort d'une logique commerciale et on a une démarche qui est solidaire avec l'agriculteur et on en paie le prix, effectivement, on paie le prix du panier à l'avance en prenant le risque d'avoir une mauvaise récolte. Donc cette année, nous, par exemple, on a eu un peu moins d'aubergines que les années précédentes. Je crois qu'il y a eu un problème d'insectes au printemps sur les fleurs, voilà, et on l'a su dans notre AMAP. Mais en même temps, souvent, l'agriculteur, on a des contreparties avec l'agriculteur. Chaque année, on a une visite de l'exploitation, on y fait un grand pique-nique, et souvent, on a une ou deux fêtes aussi sur l'exploitation. On a des compensations comme cela. Les enfants, si on a des enfants, ils savent à quoi ressemblent les légumes sur pied. Notre AMAP a une liste d'attente de 2 ans. Notre agriculteur ne veut pas fournir plus de paniers qu'il ne peut en produire. Et comme il n'y a pas beaucoup de consommateurs qui en partent, donc les places sont très chères. Nous, on a un énorme problème pour trouver suffisamment de producteurs en fruits. Le maraîchage, spécialement le maraîchage, c'est-à-dire la production de légumes, est une pratique qui a pu se perdre dans le sens d'une production variée, diversifiée de légumes et bio. On a eu de plus en plus dans la région, qui est quand même une grosse région agricole, d'agriculteurs qui sont allés vers la monoculture ou des cultures limitées en nombre, des tomates, des courgettes, des aubergines, et avec une production intensive avec des engrais.
Il faut arrêter de produire diversifié parce que bon, c'est très compliqué aussi, donc quelque part on est un peu à genoux. Mais d'un autre côté, c'est flatteur aussi. Ne pas aller dans ce sens-là, c'est vraiment aller à contre-courant de l'histoire, c'est-à-dire vouloir imposer à une population une alimentation standard, frigorifiée, qui vient d'Espagne, etc.
C'est le volailler, là. Non, pas du tout.
Ah non, 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 lui, il n'est pas. Ah non, non. Oui. Non, non, c'est, nous, on parle alors de celui qui fait des légumes. Lui, il est vraiment bio, alors.
Je ne peux pas tout prendre bio, c'est vrai, dans la vie, parce que, bon...
Je pense que nos prix ne sont pas du tout exagérés.
Mais en fait, manger bio, ça coûte beaucoup plus cher parce que vous ne vivez plus longtemps.
Ah oui, ça, c'est le risque, après. Hein.
Mais vous ne vivez plus longtemps, manger bio, ça coûte plus cher.
Quels sont les avantages précis pour les citadins d'avoir à côté de chez eux un commerce de proximité, des marchés paysans, une relation directe avec le producteur ?
Déjà, c'est une possibilité de créer des liens avec le monde rural, ce qui s'était un petit peu défait depuis quand même pas mal de décennies. C'est aussi un rapport, disons, intelligent et constructif avec le producteur, pour le citadin, parce qu'on va lui amener des recettes, hein, toute la matinée, quand on est là, pendant 6 heures durant, hein, on va communiquer avec lui, et voilà, mais ça, et le pâtisson. Alors, le pâtisson, c'est la même famille que la courgette, c'est une cucurbitacée avec une chair qui est un peu plus ferme, mais qui est plus douce, donc vous pouvez le travailler soit en faisant un risotto, soit en faisant un émincé, vous le faites poêler, et puis vous mélangez ça avec des pâtes, et ça n'arrête pas. Et donc, on a recréé aussi des lieux de vie. Depuis toutes ces années où les gens viennent sur le marché pour se retrouver, hein, où ils se rencontrent, où ils échangent aussi des recettes, et nous on apprend aussi d'autre côté aussi des choses. Ça demande une énergie considérable, il faut vouloir vraiment le faire. Mais c'est la dernière marche avant l'oubli. Quand on est en agriculture diversifiée, notamment en fruits et légumes, c'est à peu près 30% de boulot en plus, donc de main d'œuvre en plus, etc. L'avantage, c'est qu'effectivement on supprime les intermédiaires. Parce qu'eux, il ne faut plus les voir. Pendant 30-40 ans, ils se sont immiscés, ils ont gagné des vrais trésors de guerre et ils ont tout démoli. Ils ont tout cassé. Avec l'aide des paysans aussi, parce que les paysans, à un moment donné, ils ont fait le choix en disant oh, mais attendez, mais si la grande distribution et si les expéditeurs nous enlèvent la marchandise et puis qu'ils nous paient et puis moi je reste chez moi, c'est bravo. Mais on s'est fait déposséder de notre outil de travail. C'est ça la réalité.
Aujourd'hui, il y a des prises en charge des citoyens qui, en fait, veulent, eux, accéder à une autre nourriture. Ils veulent accéder, effectivement, à un produit plus sécurisé, à une traçabilité. Donc là, effectivement, les paysans vont pouvoir l'offrir. Donc, il peut y avoir, effectivement, un sursaut. Mais il viendra du consommateur citoyen.
Mais là, elle est déjà en place, cette demande du citoyen d'une...
Ça
d'une,
commence, mais l'organisation...
Une nourriture de qualité.
Oui, tout à fait. Mais c'est très difficile. Et ne pensez pas que les grands groupes n'aient pas, eux aussi, compris, effectivement, quelle était la tendance. Donc, ils s'adaptent, en l'occurrence. Et ils restent toujours sur des réseaux, je dirais, extrêmement structurés, sur une agriculture industrielle, sur un réseau maillé de grandes surfaces, où on va, dans ces environnements-là, donner l'impression qu'on est en proximité de l'agriculteur ou du paysan, ce qui est faux. Dans l'assemblage des produits qui sont proposés, il y a toujours la caution du producteur local. Toujours. Ouais. Le reste ne l'est pas. C'est le ratio qu'il faut voir. Et d'accord, souvent, on est dans le ratio 80-20. 80 de l'industriel, pur et simple, de destination tout autre, en l'occurrence, que celle de votre département ou de votre région. Nous aussi, la grande distribution, nous faisons des efforts. Nous aussi, nous regardons effectivement quelles sont vos attentes. Mais là, on est plutôt dans un projet marketing que dans un véritable projet, effectivement, de lien avec, avec le citoyen.
L'agriculture bio a été déclarée en Europe, comme un marché, comme le reste. Quels sont les indicateurs de richesse que nous mettons en place ? Est-ce que c'est simplement de l'échange monétaire, de l'échange d'un produit contre de la monnaie, ou est-ce que c'est la richesse que produit un pays sur un territoire qui va générer d'autres types de richesses ?
Le 17 avril a été déclarée Journée internationale des luttes paysannes pour commémorer le massacre, en 1996, de 19 paysans brésiliens qui luttaient pour leurs terres. Depuis, cette journée est un appel à une mobilisation pour lutter contre l'artificialisation des terres cultivables. Que ce soit dans le département des Bouches-du-Rhône, à Tarascon-Saint-Martin-de-Crau, mais aussi en Loire-Atlantique, contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres de lutte contre les projets d'accaparement de terres nourricières à des fins spéculatives. Seule une mobilisation citoyenne pourra endiguer ce phénomène profitant à quelques-uns au détriment de l'intérêt et la santé du plus grand nombre et celui de notre planète. Pas de pays sans paysans. Prise de son, réalisation Acosparla. http://acosparla.toile-libre.org Avec Jean-Christophe Robert, membre de l'association filière paysanne, Philippe Chassigaud,
Peter Gerber, Michel Apostola, membre de la Confédération Paysanne.
Madame
Roux, directrice régionale adjointe de l'INSEE à Marseille, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Armand Durigon, co-fondateur du marché paysan du Courjulien. Jean-Noël Consalès, agri-urbaniste. Bernard Comaguer, citoyen présent en 73 sur le rassemblement du Larzac. Isabelle Mathieu, responsable de l'AMAP de Bonneveine à Marseille, le président de l'association Agir pour l'Accro, Mathilde de la Tisannerie, les paysans producteurs du marché du Courjulien, des extraits de films et de musique. La vie moderne de Raymond Depardon, Notre-Dame-des-Landes au cœur de la lutte de Christophe Kergosian et Pierrick Morin, Bernard, ni Dieu ni chaussette de Pascal Boucher, Larzac 73, chant et tribune.
Notre métier chiro tout sourdure.
On danse le parpagnas du Massilia Sound System.
Mais vive la glaive et le tracteur.
Chanson de campagne de National 7.
On les appelle les bouseux, les péclos, les pacoulés, les parpagnas.
Pas de scie. Des Los Fabulos Troubadours.
La danse qui vient l'aurait entièrement dédicacée, car collègue réfléchit, qui déclare les guerres, qui cultive la terre, qui fait son profit et qui nous nourrit.
Pas de pays sans paysans.
On danse, on danse, on danse par Pagnas. On danse, on danse.
L'odeur du fumier.
On danse le Pagnas.
C'est une volée de Monsieur de Paris et de petites dames en grande toilette qui me regardent curer l'écurie et l'été, où que c'est que j'hite les bêtes. Bah, quoi que c'est, les viloquets? Vous faisiez poids en grichant le nez au-dessus de la bière embornée? Vous trouvez qu'il pue, mon fumier? Mais vous comprendrez bien une chose, c'est qu'il peut pas sentir la rouse. C'est du fumier. Il sent le fumier. Adam, oui, le fumier des capitales est bien plus grand que ce qu'il des champs. Ramant de honte et de scandale, il y a de la boue et des fois du sang. Ah, disait non, les viloquets, avec tous vos micmacs infâmes, ou que c'est que tombe jusqu'au cul de vos femmes, il sent peut-être bon le voûte de fumier. Ainsi, quand je songe à tout ça en décrottant le dedans d'été, je trouve que la bouche des verras accorde comme un goût de propreté. Et croyez-moi, les viloquiers, c'est pas la peine de faire des magnes devant les tas de fumier de la campagne. Il pue moins que le vôtre, nous de fumier.
On danse, on danse, on danse par Pagnas. On danse, on danse, on danse le par Pagnas.
Une nouvelle danse en France est excitante.
Celle-ci est dédicacée aux paysans
qui de partout sur les cinq continents
se chantent un air pour se donner de la.